Hey, c'est Steven. Tu vas-tu nous faire la troisième partie de ta rétrospective?
Ben, en fait, je pense que je vais clore la rétrospective en parlant du mois
d'avril. Comment ça, clore? Ils vont pas arrêter de faire des films de Steven Seagal?
Non, mais comme clore, mais tu sais, clore jusqu'à en date d'aujourd'hui, mettons. En 2020,
OK, c'est bon. Parce que l'an prochain, tu fais encore 5 nouveaux films, là, on s'entend?
Il s'est calmé depuis 2005, c'était sa plus grosse année, je pense, avec 6 films. Tous, okay, d'ailleurs, inécoutables, l'un autant que l'autre. Et j'aime vraiment ça parce que quand je tape IMDb dans mon browser, ça va directement sur la page de Steven Seagal. Alors,
est-ce que ça enregistre en ce moment?
Certainement, certainement.
OK, c'est bon. Donc, vous êtes à Critique Exquise. Ici, Bruno Corbin, en compagnie de Tommy Godette,
Laurence
Payette et Milan Pagé-Shannon.
Yes.
Les trois mousquetaires du podcast de cinéma québécois francophone montréalais avec trois gars et une fille.
Yeah. Yeah.
Pour l'instant, on salue Pascal puis Jérémy Sartin aussi.
Effectivement.
Ah oui. Ben, on te dit revoir. Mais là, tu voulais nous ramener dans... J'ai un petit peu de la misère à le dire, là.
C'est parce qu'on avait déjà commencé à parler de Steven Seagal, fait que je me suis dit, on va starter le show, puis on va pouvoir jaser de Steven Seagal, puis c'est son
moment. Moi, je pense que c'était une excellente idée de ta part, Bruno, là-dessus. Et on est parti. Et pour ceux qui suivent le show depuis longtemps, Milan, tu nous avais fait deux premières parties sur l'homme de roche.
Écoute, l'homme, le maître, le sifu, hein?
Oui.
Qu'est le grand dieu créateur de l'univers, qu'est évidemment nul autre que Steven Seagal. Je m'étais rendu, je pense, vers l'année 2005. Et par la suite, là, il restait évidemment de ce que je vous parle de 2005 à aujourd'hui. Petite chose cocasse, Pascal, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, peut-être qu'on en reparlera un autre jour, mais se fait des 30-day movie challenge. Genre, il se dit, je vais regarder 100 films de neige en 100 jours, des affaires comme ça.
Oui, il nous en avait parlé. Il y a des défis comme ça par jour.
C'est ça. Lui, il se donne des défis. Et puis, pour le mois d'avril, il ne savait pas trop quoi faire. Puis, on parlait sur Facebook, je me souviens plus comment c'était arrivé, mais il a dit, Steven Seagal, j'ai dit, ben écoute, fais une liste, j'embarque. Ça m'a donné la chance de regarder ceux que j'avais pas regardé, comme 5-6 sur les 52, fait que pas tant que ça, mais ça m'a aussi donné la chance de me replonger les deux pieds directement dans notre saint créateur, The Fat One, Steven Seagal.
The Fat One.
The Fat One. Et ce qui est quand même cool, c'est que sur mon desktop, je n'ai plus ce que je voulais. Merde, c'est pas grave. Je pensais que j'avais gardé la liste de films qu'on s'est tapé, mais je vais aller la rechercher dans une conversation. Parce que ce qu'on a fait, ce que Pascal a fait, en fait, c'est lui qui a dessiné des films. Puis moi, il y a un film que j'ai changé parce que j'avais pas la version. J'avais une version genre buggée en mandarin et puis c'était sûr que c'était bon en mandarin buggé, mais je me suis dit que j'aurais regardé quelque chose que je pourrais comprendre, tu sais, comme moindrement. Fait que j'ai regardé un film, puis lui a changé ce film-là, mais à part un film, on a regardé toute la même chose à peu près en même temps. Et on s'est tapé donc dans ces premiers qui sont les meilleurs, évidemment, là, le début, tu sais, Under Siege, Under Siege 2, Nico ou Above the Law, là, dépendamment de la version que vous regardez. Et on s'est échangé quelques films au passage, mais on est arrivé, évidemment, dans les années 2000 et jusqu'à présent, et c'est là que ça commence à chier. Je vous dirais que les pires films qu'il a fait au niveau d'intérêt suscité à l'auditeur, c'est dans les années 2000. Là. Vraiment, là, le 2000, comme après Half-Past Dead, The Foreigner, là, ça commence à être vraiment de la merde. Le 2003 là, jusqu'aujourd'hui, là, c'est assez difficile à regarder.
Là, même en 2003, ça fait quand même une couple d'années que c'est straight to video.
Je pense que le dernier qu'il a fait, c'était Half-Past Dead au cinéma.
Yeah.
plus certain, ou Exit Wounds, là, mais dans les débuts 2000, il y en a encore une couple qui sont allés au cinéma, mais à un moment donné, là, ça s'est évaporé, hein, comme on peut dire.
Le fan de Steven Seagal.
Comme le disent les anciens, le Seagal s'évapore.
Ouais. Ben, en fait, sa popularité s'évapore, mais lui prend de la masse. Est-ce qu'il mange son fan club? Est-ce qu'il vole, tu sais, comme l'esprit des gens? Je sais pas.
Mange son fan club.
Ça explique tout aussi. D'un bord comme de l'autre.
Oui, si. La loi de la conservation.
Mais c'est pas le fameux dicton qui dit genre la popularité s'évapore, mais Steven Seagal reste.
Ouais. À date, c'est ça, en tout cas. À date, il veut pas s'en aller. Là.
Il veut pas s'en aller. Fait que écoutez, je vais reprendre sans vraiment parler de titre en général, mais disons que je vais parler aujourd'hui de 2006 à plus ou moins 2010-2012 et de ses récents films. On va passer au travers de quand même une vingt-trentaine de films. Ce qui est cool avec Steven Seagal, cool entre très gros guillemets, c'est que si on prend les films qu'il a fait, mettons, de 88, qui serait son premier film où est-ce qu'il est acteur, à, je ne sais pas, une décennie. Fait que disons 2000, mais 2001, c'est son prochain film. Fait que si on prend de 88 à 2001, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 films.
Ah bah, yeah.
12 films en 10 ans. Fait que bon, des fois, c'est peut-être un peu plus qu'un film dans la même année. C'est pas si pire que ça. Mais si on prend, mettons, de 2001 à 2005, il y a 12 films aussi. Fait que la plupart des films qu'il a fait, évidemment, sont après les années 2000. C'est vraiment là qu'il a commencé à chier du straight-to-video Netflix, Amazon et compagnie, parce qu'évidemment, là, les vidéo stores, ça n'existe plus ou que très peu. Direct sur une plateforme, live chez vous. Pas besoin d'attendre en file pour louer ton film ou l'acheter.
Tu peux
te login sur Netflix, puis direct, tu peux regarder ton Steven.
Le Seagal direct d'Even. Mais il y a tout. Là, tu as dit, mettons, il y a 12 films de 88 à 91. C'est très rare qu'il n'y ait pas personnage principal, genre protagoniste principal. Il y a dans l'exécutive décision qu'il meurt même à
la seule
milieu
fois.
Du film.
C'est la seule fois qu'il meurt, de ce que je me souviens. Peut-être qu'il meurt dans un autre film, mais. De mémoire, là, vraiment, je doute
pas. C'est sûr que non.
Je pense que ça avait été même sujet à discussion. Là,
ouais. Ben oui, parce que
dans... Il ne meurt jamais dans un film.
C'est ça. Puis dans Executive Decision, je me souviens, il ne voulait pas faire la scène parce qu'il mourait dans la scène puis il n'était pas d'accord de mourir parce que selon lui, évidemment,
c'est
le Saint Graal de la planète. D'ailleurs, en fait, dans les 12 films, j'ai menti parce qu'il y a un là-dedans, c'est un épisode de Roseanne que moi et Tommy, on a regardé. Donc, c'est 11 films et un épisode de Roseanne.
Oh oui! Oh, j'avais oublié ça! Oh, c'était
très, très bon.
C'est très, très bon. Ouais, c'est le bon.
T'as-tu regardé son hosting à SNL?
Non.
Ah oui, lui, il est barré à cette heure en plus de ça.
Ah ben oui.
Ben, il est barré d'être aux États-Unis, donc comment qu'il pourrait enregistrer SNL, je ne sais pas.
Ah oui, lui, il s'est fait Me Too de... Et il était elle, là, la... Ouais. La fille dans Sous le siège 2 acte plus à cause de. C'est ça.
Et je doute qu'elle ait eu. Tu sais, je pense pas qu'elle avait 18 ans à l'époque ou c'était très récent.
Donc, bon,
c'est ça.
Fait que là, on est en 2006.
2006. Et là, je vais vous balancer des titres comme ça et on va voir une espèce de. Je sais pas. On va se rendre compte de quelque chose de très pertinent. Je vais vous lire des titres. Checkez bien ça. Okay. Fait que le premier de 2006, c'est Mercenary for Justice. Le deuxième de 2006, c'est Shadow Man. Et le troisième de 2006, c'est Attack Force. Suivi en 2007 de Flight of Fury, Urban Justice, Pistol Whip, Kill Switch, Against the Dark, Driven to Kill. On voit... espèce de semblance de Special Forces, CIA, hein? très importante. Ouais, ouais.
Beaucoup de meurtres aussi.
Oui, beaucoup, beaucoup de cadavres, effectivement.
Parce que quand on parle de justice, on parle de futur...
On parle rarement de procès quand on est avec Steven Seagal.
Oui, c'est ça, exactement. Exactement. On peut skipper deux, trois étapes.
C'est ça l'affaire.
Il y a vraiment un jeu à faire avec ça. T'sais.
Ah, c'est...
Je vais vous dire trois affaires, genre Mortal Wound, Eye on Action, puis Left for Disease. Puis là, vous trouvez c'est lequel qui est un titre de
Steven Seagal. Seagal, hein.
De Mar... Hey, voyons, sac.
Ah, c'est ça. Titre de Steven Seagal ou Maladie congénitale?
Eh là là! Mais, ouais, c'est ça. Ces titres sont pas très originaux et plus que ça avance, moins que c'est original. Fait que bon, ça se ressemble tout. Puis le nom de ces personnages, je veux dire, t'as genre John Seeger, Jack Foster, John Sands, Simon Ballister.
Simon Ballister!
Ouais. Shane... Shane Daniels, John Alexander, qui revient plus qu'une fois, je pense. Colonel Robert Sykes, Jake. Ah, Jake est pas pire, ça. Decker, John Harrison, Louder, John Harmon, Axe, Jake Alexander, évidemment, qui revient une deuxième fois. En fait, il y a John Alexander, il y a Jake Alexander.
Je me suis tout le temps demandé ça. T'sais, ces noms de films d'action-là, il y a... Il y a personne qui s'appelle, mettons, Bertrand, Robert, tu sais, c'est tout le temps John Matrix, puis...
Jonathan Cold, Harlan Banks,
Travis
Hunter, William Lansing. Écoute, on est Jonathan Cold qui a fait plus qu'un film, malheureusement, avec le même personnage, ça c'est...
Puis là, on s'entend aussi à partir de cette époque-là, Steven Seagal. Moi, je me souviens, tournant, mettons, 2008-2009, il est retourné faire une télé-réalité dans laquelle il est retourné être shérif en Louisiane.
En fait, c'est un mensonge. Il n'est pas retourné. C'est un titre honorifique. Il n'a jamais passé rien d'école de police focale. Comme beaucoup de choses dans sa vie, c'est lui qui s'est comme inventé ça. Puis, je me souviens pas pourquoi, il faudrait que j'aille relire là-dessus, mais c'est le shérif à l'époque de St. Tammany Parish, qui est le parish dans lequel moi j'habitais quand j'étais en Louisiane.
Mais!
Je te jure!
T'aurais pu avoir Steven Seagal! Ouais. Oh, ben, on comprend pourquoi tu l'aimes!
qui a donné un titre honorifique parce qu'il était venu entraîner les shérifs à faire des arts martiaux et mieux tirer avec des pistolets. Genre.
Oh my god!
Ben oui!
Ouais, ça,
parce que des fois, la caméra tourne, puis lui, il tire avec le pistolet.
Hey, t'imagines-tu la journée de ces policiers-là quand ils leur ont dit « Hey, aujourd'hui, vous allez vous faire apprendre à tirer du gun et à vous battre par Steven Seagal. Meilleure journée ever, right?
Ouais, » Sûrement.
Sauf si c'était une fille.
Ouais.
Mais bref, continuons dans le Steven Seagal de 2006 à présentement. Ce qu'on remarque beaucoup dans ces films, c'est que c'est tout lui qui est produit généralement, donc qui paye pour en partie, avec ses multiples compagnies de production qui ont des noms absurdes, genre Force to Disaster, Kill, Nuclear Bomb, Cock Punch, whatever. Plus que le temps avance, plus que c'est souvent les mêmes directeurs qui emploient, donc Keone Waxman. Et selon Steven Seagal, Keone Waxman, c'est un des meilleurs directeurs émergents.
Réalisateur en français, Milan.
Ouais, réalisateur. Réalisateur émergent aux États-Unis qui a fait des choses incroyables, dont juste des films de Steven Seagal. Donc, c'est pas pire. Ça se ressemble tout. Et surtout, il grossit. C'est plus lui qui fait ses combats, sauf les passes de main vraiment close-up rapide avec la caméra qui shake pour pas voir d'autres. Et surtout, il est dubé en anglais. Donc, il y a des passes dans les films où soit qu'on ne l'entendait pas ou que la réplique qu'il a donnée ne marchait pas, whatever. C'est dubé, c'est voice-over, mais pas par lui, par quelqu'un d'autre qui imite la voix de Steven Seagal. Et ça, ça vaut de l'or.
Ça, c'est
juste pour ça, ça vaut la peine de les regarder. des fois, dans un même film, il y a trois personnes, incluant Steven Seagal, qui fait la voix de Steven Seagal. Fait que si je te jure, si tu The Foreigner, c'en est un, vite de même.
Fait que ça veut dire que lui, il marmonne sur le set. Fait que là, le réalisateur, il n'ose pas y dire de répéter, on la refait. Seagal, il dit, c'est moi qui paye en avance, t'étais bien qu'à mieux me miker. Puis là, après ça, c'est à la table de montage en post-prod. Le monde dit, ben là, on peut pas passer ça de même. Puis là, ils disent, ben, on n'appellera pas Seagal parce que, oui, il n'écoute pas ses films après. Fait que toi et Robert essayent d'imiter sa voix. Puis là, la fois d'après, Robert, il n'est pas là. Fait que là, il dit, bon, ben, moi, essayez. Anyway, il n'écoute pas ses films. Puis, quel genre de trail de tout croche, de petit clin niaiseux que ça peut être, ça n'a pas de sens.
J'imagine tout à fait dans le boot de monteur que, genre, le monteur fait comme, on n'entend rien, puis le directeur fait comme, mais là, on va pouvoir, comme, quand même, genre, sauver un peu de ce qu'il dit. Puis, genre, finalement, ils font comme, non, mais, tu sais, on va devoir faire appel à un narrateur. Puis ils font comme, ben, on est sur un deadline, fait qu'il va falloir qu'on parle à un narrateur rush. Puis plus ils parlent au narrateur, puis qu'ils ont les trucs de narrateur, puis ils se rendent compte qu'il y a encore plus de scènes qui n'entendent rien. Fait qu'ils envoient plein de contrats rush à des narrateurs, puis ils font comme, fuck it, c'est pas le même, c'est pas grave, là, on arrangera le timbre en poste, puis genre, ils font comme, ils font des arrangements de timbre en post-prod, puis c'est ça que ça donne, genre, fait que.
C'est sûrement quelque chose comme ça. Pour vrai, c'est tellement...
C'est inexplicable. C'est lui qui paye pour les films.
Ah oui.
Mettons qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui dit « ça n'a pas de bon sens », tu sais, il faut le... Asti, j'en reviens pas. Ça me fait penser à la légende de l'empereur qui a du linge invisible. Puis ça, ça me fait vraiment penser à ça. C'est lui qui paye. Personne n'ose y dire « hey, Chris... » En 2016, il s'est battu contre Georges Saint-Pierre.
Ouais, puis il a gagné.
Il a reçu aucune table. Georges Saint-Pierre, il venait de quitter le MMA. C'est un des hommes les plus dangereux de toute l'histoire de l'humanité. L'autre, c'est une espèce de grosse courge dans un suit en cuir serré, man. Puis il touche pas, ça n'a pas de crise de bon sens. Il n'y a rien de plus facile à toucher que Seagal. Il est gros comme un divan. C'est l'espèce de manque d'humilité tout le temps de venir sauver la veuve puis l'orphelin. Puis là, ça, c'est ben justement, c'est celui Ops.
C'est Sniper Special Ops de 2016 où il passe le film au complet ou presque.
En arrière d'un bureau.
Assis sur une chaise en train de regarder un gars qui meurt. Hey, c'est pas une joke.
C'est le gars de Ballistica.
Oui, c'est le gars de Ballistica, effectivement.
J'imagine.
Check ça, là. Tu vois, là, il est. Attends, oui. on avance.
Tu cherches Seagal, mais tu tombes pas.
Il est pas là souvent, hein.
Non, mais là, c'est. Il est assis.
Ça a l'air souffrant d'être Seagal. Tu sais, comme un bug, des fois, tu le regardes, là, puis juste respirer, il cille, là. Ça...
Tu penses-tu quand ils ont mis son saut, il a demandé, genre, j'ai-tu l'air gros là-dedans? Puis ils ont dit, non, l'armure, ça cache le fait que t'es gros.
Écoute, s'ils sont même pas capables d'y demander, peux-tu faire des voix off dans ton film? Tu sais, peux-tu la répéter, la phrase, on comprend rien, tu marmonnes? Genre, tu sais, la style de délusion totale. Hein, celle-là, je l'ai...
Ça, c'est... China Salesman de 2017, c'est un film chinois avec Steven Seagal et Mike Tyson.
Mike Tyson,
hein?
Qui se bat.
Puis là, il va se battre contre Mike Tyson, puis il va y péter à la gueule. Ben
non,
oui.
Non, il va perdre. Je te jure. C'est le plus laid combat que j'ai vu, mettons, réalisé dans les 10 dernières années. Là.
Je veux le voir. Ben ça, je veux voir ça, ce film-là. Moi, Mike Tyson, je l'avais bien aimé dans Hitman 12.
Hitman 12.
Il y a une carrière en Chine, le Mike Tyson. Fait que,
Bon, ben, écoute, c'est des bonnes nouvelles. Écoute, mais oui, c'est ça. Fait que cette scène-là de China Salesman est complètement atroce. Là. Voilà.
As-tu vu les deux crochets qui viennent mettre dans la ce gars-là, il est rendu comateux pendant deux générations. Là. Ça
Ce qui est cool aussi des films de 2000 et plus de Steven, c'est que ses body doubles sont vraiment, vraiment évidents. C'est comme il peut pas accepter. Genre, crisse-toi un oreiller dans le ventre, au moins, pour avoir la même shape que Steven Seagal.
Ben non, mais si Seagal, il se voit comme ça dans le miroir, lui.
Exactement.
C'est ça. C'est ce que ça veut dire. C'est exactement ce que ça veut dire.
Mais tu sais, j'imagine juste même le preneur de son qui fait comme, man, on a mis un micro, puis là, tout ce qu'on entend, c'est un sifflement. Il respire fort, puis genre, tu vois le sound tech qui fait juste enlever ses écouteurs, puis que ça servait pas à rien, puis genre, il laisse faire ça, puis genre, let's go.
Il y a une autre affaire aussi qu'on n'a pas encore parlé, mais depuis cette période-là, là, depuis le tailleur, puis qui s'habille tout le temps en trench coat, puis depuis cette époque-là qu'il produit ses films aussi beaucoup, les love interest féminins des films, c'est comme rendu plus flou. Tu sais, elle voit comme un mentor ou comme son père, plus comme un pénis, genre. Puis lui, tu sais, la dernière fois que j'ai vu Steven Seagal embrasser une madame dans un film, c'était dans le millénaire d'avant, mettons.
Non, il embrasse dans les films plus récents. C'est juste que quand il fourre, entre guillemets, la fille est à poil, puis lui est habillé en cuir. Puis pour lui, c'est comme ça faire l'amour, genre. T'sais? Fait que genre, il se donne des becs. Là, il donne des caresses à la fille complètement à poil, qui d'ailleurs est comme minuscule comparée à sa
énormité. Dans Sizemore, dans un Albin Pion avec Dennis Hopper, il y a Seagull là-dedans aussi.
Oui, c'est Ticker. C'est un film de 2012. Ticker, c'est 2003, je pense. Quelque chose, je sais plus.
Ça a l'air retourné. Nas, pour vrai? What the fuck?
Il y a un gars qui s'appelle Numéro d'assurance sociale.
Ouais. Taker, c'est hot parce que. Ouais. Dennis Hopper, il fait le pire accent irlandais.
C'est sur pellicule.
Oui, bon, oui, ça, c'est.
Par
c'est
un vrai film.
Ben, vrai.
Bruno qui mène l'enquête. Hey, mais parlant de Dennis Hopper, on a réécouté Waterworld dernièrement. C'est son heure de gloire. J'aime ça, Waterworld, à cause de Dennis Hopper.
OK. Okay.
Ben, on écoute, parle d'autres choses. On pourrait aller dans Seagull. Il y en a où? Seagull, la mer.
La mer.
Seagull, Waterworld, Sea, mer. Dennis Hopper, Albin Pion, Milan.
Moi.
Ben ouais. Taker, quand tu as dit que ça s'appelle, Milan?
Taker, ouais, 2001. Taker, c'est vraiment, 2001. Vraiment bon.
Je prends ça en note en esti, ça.
Ben écoute, si tu veux, je peux t'envoyer la collection complète de ces films. J'ai les 52. L'épisode de Roseanne.
Je vais juste Taker, ça va
être bon. C'est vraiment... Milan, il a dit, est-ce que je peux vous parler de notre Lord and Savior, Steven Seagal? Toi, il t'a dit, ben, tu peux rentrer deux minutes, puis là, il est en train de commander l'encyclopédie.
Puis, si tu veux, Bruno, je peux t'envoyer les 26 épisodes de True Justice, la télésérie.
Comme Milan, il a une vie en Seagal, genre.
C'est super,
OK, mais est-ce que tu peux comme m'envoyer un disque dur aussi?
Oui. Oh, okay, cool.
Je vais les prendre d'abord.
C'est bon.
Hey, mais les True Justice, c'est de
ben
la
oui,
merde.
Oui.
C'est de la merde en bord, là. Ça n'a pas de bon, ça.
Ça, c'est 2010-2012. Il y a deux saisons. Il y a deux saisons de 13 épisodes chaque qui durent 45 minutes. Donc, chaque deux épisodes qui vont généralement main en main, c'est des films. Mm. Fait que c'est assez infect. Mettons, je vous parle de titre, là. Deadly Crossing. Après ça, l'épisode 2, mettons, ça s'appelle From Russia with Drugs. après ça, t'as des titres tels que Brotherhood, Yakuza, Lethal True Justice.
Puis dans True Justice.
1, épisode 8, Lethal Justice.
Ouais. Moi, j'ai vu toute la première saison, puis dans ça, il est rendu latino.
Ouais, il y a un peu de
parle avec
chinois aussi. Il y a un peu de... Ouais.
Il y a une transition tranquillement, là, parce que là, il était italien avant. Là, il est latino, puis là, il s'en va vers asiatique. Là. Ben, il y a eu un bout amérindien aussi.
Ouais, il était amérindien dans black. Fire Down Below.
Ouais.
Il était black, ben, il est encore black, tant qu'à moi. Là,
mais ouais, il parle comme un black, mon frère. Là.
Puis, il est russe aussi, faut pas oublier.
Ouais. À ce stade, c'est ça. Là. C'est la seule place qui l'endure encore.
Ce qui est hot de Steven Seagal, c'est qu'il prend toutes ses expériences du passé dans ses films. Et même s'il change de nom, puis de whatever, tout ce qu'il a fait avant, c'est encore là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, chaque film de plus qu'il fait, c'est plus de compétences de CIA, Special Operations, machin et poète à son arc, tu sais.
Ouais, c'est ça, c'est comme Kenneth Arkin qu'il commence qu'il n'y a pas le pouvoir de la trampoline, puis là, il passe au travers du film qu'il y a le training montage de pouvoir de trampoline, puis après ça, dans tous les autres films, après, il y a le pouvoir de la trampoline.
Exactement. C'est exactement ça. C'est quelque chose, pareil. C'est un univers très à part. C'est...
celui de Seagull, ouais.
Ouais, c'est...
puis aussi, là, parce que là, c'est une télésérie, ça veut dire qu'il existe quand même à la télévision On The Side, si on parlait de sa télé-réalité aussi tantôt.
Ouais, effectivement.
Je sais qu'il est retourné donner des cours, genre, dernièrement, à la CIA. Je sais aussi que, ben, peut-être pas à CIA, ou à des forces de police, là, je sais qu'il est rendu en campagne... en campagne d'autopromotion permanente. Là. Genre, on a tous vu des clips qui parlent avec des gouvernements de l'Europe de l'Est. Puis lui-ci, comme Gérard Depardieu, il veut aller échouer sa carcasse fatiguée et gonflée dans un pays slave, là, parce que là-bas, il respecte ça, le talent, il paraît.
Hey, c'est Gérard Depardieu, bon, c'est quand même un peu moins pire que Steven Seagal, mais quand même, c'est un peu la même chose, là, tu sais, ils s'en vont en Russie, puis
ils essayent. C'est des riches acteurs que, dans la vie, ils n'ont pas fait les affaires que le personnage dans les films y ont fait, mais que, ben, peut-être sûrement Gérard Depardieu, il n'y a pas la même délusion totale, tu sais, hey, Christ, pété à la gueule à Georges Saint-Pierre en 2016. Là. Il n'y a pas grand monde qui aurait été capable de faire ça. Là. C'est mieux.
Gérard Depardieu le fait pour les taxes. Puis Steven Seagal, en fait, je pense qu'il n'est même pas en Russie. Je pense qu'il est au Kazakhstan. Parce que même
ouais, il est en pays slave.
Ouais, Europe de l'Est. Là. Il me semble que c'est Biélorussie.
Ah, Biélorussie. Oui, oui.
Quand même la Russie dit « ish ».
Mais il y a une affaire que je voulais parler au travers de tout ça, de ce préambule-là, c'est qu'il a fait un excellent film à cette époque-là, 2006-2007. Il a fait une de mes comédies préférées des 20 dernières années. Cock Puncher dans The Onion.
Ouais.
C'est vraiment comme champ gauche, ce film-là. Sûrement aussi que Seagull, c'est pas qu'ils sont allés le prendre
pour rire de lui, genre.
Ouais. Je pense que lui, il n'est pas au courant, là, mais...
Ah, il a été punked, puis il a signé tous les documents, puis le film est sorti. De toute façon, il ne regarde pas ses films.
Donc, non. Ben, c'est... Attends un peu, là. C'est la seule explication que je peux trouver à l'idée... Tu sais, c'est moi qui parle, puis c'est pas ma voix.
C'est soit qu'il regarde pas ses films où la délusion est tellement totale.
Ouais.
Que tu peux rien faire. Tu peux rien faire à son image pour qu'il ait pas l'impression qu'il est encore le plus hot au monde.
Ouais, exactement. C'est ça.
Il a une confiance infinie en ses compétences, en ses capacités, en lui.
Son passé, ses réussites. Un petit feeling Donald Trump, là, juste pour en parler. Là. C'est pas tout à fait longtemps, là, mais... Il est amérindien là, dans le show. Là. C'est quoi qu'on regarde? C'est True Lies?
Ça? Non, ça, c'est Out of Reach de 2004. Ça,
il est en train de nourrir un oiseau.
Oui, qui était blessé, évidemment, parce que...
Avec une barre de chocolat?
Non,
c'est un
bon jeu, ça. faut lui donner quelque chose. Il est très protecteur des animaux et de l'environnement. C'est bien la seule chose estime positive à propos de Steven Seagal, selon moi.
Il est certainement pas végétarien. Là.
Non, mais il...
végétarien, ça gagne pas 80 kilos en 10 ans. Là.
Ben...
Ouais, mais Tommy, mettons que je veux faire une parenthèse sérieuse à ton affaire.
Ouais.
Les gens qui font de la conservation, en général, c'est des chasseurs, là, en grande majorité.
Ouais, effectivement.
Fait, c'est pas, je pense pas que c'est nécessairement relié la conservation. Puis je veux juste dire que être végétarien, ça veut pas dire que tu sauves des animaux hostidipi. C'est ça que je voulais dire. Okay.
Ça me va. C'est plus pour faire une joke sur le tour de taille, mais je pense qu'on a assez dit qu'il était gros, Steven Seagal.
Steven Seagal, il est gros?
Ben, quand il va manger une volée, je vais arrêter de le dire, OK? C'est le deal que je fais avec le Seagullverse.
Hey, hey, Tommy, ça va être bien la seule affaire qu'il a jamais mangé.
Ah! You've been browned!
Je veux quand même parler un peu d'Out of Reach, même si c'est 2004 et non 2006, mais ce film-là, c'est comme un des premiers où est-ce que les voice-overs de sa voix, qui sont pas lui qui fait ses propres voice-overs, commencent vraiment à être apparents.
Okay.
Et c'est l'histoire de lui qui foster, qui parraine une jeune fille en Russie ou wherever, dans un pays slave.
Ouais, ouais, je l'ai part. Vu, ça.
C'est très bon, ce film-là. Évidemment, il y a des ciphers. Hein? Il envoie des ciphers à la fille, genre des énigmes à répondre, et les deux se parlent en cipher. C'est tellement égocentrique.
Ouais, qui sont les deux.
Prémisse de film.
C'est intelligent à répondre. Puis, la fin, ça sauve la vie de la petite fille.
Mais on l'a vu qu'elle expliquait le cipher puis que c'était écrit Friends Forever.
Oui, exactement.
Mm-hmm.
Ouais. Puis là, ben, c'est ça, c'est du trafic humain. Puis il y a une shot comme dans James Bond où est-ce que il y a le méchant qui fait de l'escrime comme quelqu'un d'autre. Puis le méchant, je vais vous montrer sa maison, là. Vous allez voir, là, ça, on y croit en tabarnak, sa maison. C'est comme un musée. C'est vraiment hot. C'est ça. Ça, c'est sa maison du méchant. Ça, c'est sa maison. C'est clairement un musée à quelque part en Biélorussie ou je sais pas quoi, là. Mais comme, c'est ça. Voilà. Ça ressemble à un musée, là.
Ouais, non,
mais ils ont pris le corridor pour filmer la partie d'échecs, par exemple. Ça, c'est un balcon. C'est pas une pièce, là.
Parce qu'un méchant dans un film, qu'est-ce que ça joue aux échecs?
Ça fait de l'escrime. Ça fait de l'escrime.
Ouais, puis
dans des marches.
Et voilà. Toutes des passe-temps de méchants. Ça fait qu'on est-tu rendu... Continue, Milan, là, parle-nous d'autres films. Là, on est-tu rendu en 2010? T'es-tu en train de dire que...
Ben, écoute, mettons que dans ceux qu'on a regardés avec Pascal, les derniers là, qu'il a fait, genre Attrition, General Commander et Beyond the Law, parce que son premier film s'appelle Above the Law, là, il a fait Beyond the Law, et cette année, il va...
Hidden from the Law.
Il est supposé de sortir Above the Law 2.
Beyond the Law 2.
Et après Above the Law 2, normalement...
Non, Above the Law 2, sous-titre Beyond the Law 2.
Ah, ça pourrait être ça.
C'est la suite des deux, tu sais.
Ça pourrait être ça. On a évidemment, là, comme je parlais tantôt, le Sniper Special Ops, où il passe le film militaire avec des athlètes... déchu de la WWE, assis sur une chaise à sniper des talibans qui sont clairement aussi blancs que moi et je suis très pâle. C'est ça. Dans ce dernier-là, China Salesman, Attrition, General Commander et Beyond the Law, il est très souvent assis. Il est très souvent assis. Il te donne son savoir parce que Steven Seagal a vraiment une façon très précise de parler et il dit toujours le même genre d'affaires. Genre, now I'm finna tell you, puis là, il va te dire quelque chose, mais c'est jamais pertinent, mais il va toujours dire la même ouverture de phrase, genre, je vais te dire ça, puis là, il va le dire. Ouais, faudrait que je te dise que, puis là, il va dire quelque chose, mais c'est tout le temps comme ça. Il dit jamais, hey, salut, on s'en va-tu prendre un café? Non, c'est, hey, faudrait que je te dise, salut, on s'en va-tu prendre un café? C'est spécial, c'est spécial. C'est comme, il te dit, il t'annonce qu'il va te dire quelque chose, à la place de juste te le dire, genre. C'est. Je sais pas. C'est. Il transmet son savoir de grand Bouddha.
Par osmose.
Oui, clairement.
Ben grand Bouddha. Ben oui, c'est ça. C'est un petit peu ça que je disais tantôt. Ça, les love interests, c'est plus du sac, là, c'est de la sagesse. C'est de la. Il est rendu le mentor universel de tout le monde qui peut aider tout le monde à grandir.
C'est notre grand Dieu universel, voilà. Seigneur Steven Seagal.
Comment t'as dit ça?
Comment ça, il est rendu, il l'a toujours été, right?
Avant, c'était plus action. Genre, lui, il montrait comment devenir meilleur. Pas, il disait pas. Tu sais, il allait le faire.
C'est une ascension au statut de Bouddha, en fait.
Ben, c'est un Dalai Lama.
Oh,
C'est un Dalai Lama.
C'est, mais pas un Dalai Lama, mais il y avait un titre tibétain Attends. Officiel. Dalai n'a juste un. C'était un mini-lama, genre. c'est sûr, oui. Mini-lama. Calliste, Steven Seagal. Fait que là, ça veut dire que c'est la troisième partie, mais on va en réentendre parler. Il va avoir
ben oui, je vous attire sur un dernier film de 2012 qui s'appelle Maximum Conviction avec Stone Cold
Steve Austin. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, conviction maximale. C'est ça que ça veut dire.
Okay, c'est peine maximale, genre en français.
Ah, attends, c'est la réincarnation tibétaine bouddhiste du Dalai Lama X. Selon
Steven Seagal.
Ouais, c'est selon
Ouais, mais il y a jamais, c'est tout le temps le même le Dalai Lama.
C'est pas clair.
C'est une réincarnation constante le Dalai Lama.
Ouais, c'est ça. Puis il me semble qu'il peut pas en avoir deux en même temps.
Il y avait tu hier, mais il y a peut-être, tu sais, comme l'époque il y avait deux papes là, un à Avignon puis un au Vatican là.
Ils se sont excusés de ça beaucoup, Bruno. Ils se sont excusés puis ils le feront plus.
Mais ouais, il a été apparemment que c'est là une réincarnation d'un lama quelque chose.
Et que ça, en tout cas, il y a un titre. Il est où placé, un Tibétain?
Son spiritual elevation est rendu tout le coup à cette heure.
Je sais pas si ça, on est sûr que c'est pas juste une affaire qui est arrivée dans un de ses films et qu'il a décidé que c'était vrai dans la vraie vie. Là.
Non, c'est vrai pour vrai.
Okay, c'est bon.
Il y en a un qui a donné un titre qui disait que c'était la réincarnation d'une affaire. Là. Fait que
c'est pour ça. Pour probablement. Oui, mais t'es ce gars-là. Vas-y, va-t'en. Là.
C'est ça.
Ça me rappelle que moi, je suis comme le président du conseil d'administration du Club des Louloutes du Québec.
Ça, c'est hot, ça.
On parle des choses importantes avec Steven Seagal qui est des titres qui comptent.
Fait que Maximum Conviction avec Stone Cold Steve Austin... réalisé par nul autre que Keone Waxman, le futur meilleur réalisateur américain, payé par Steven Seagal, écrit par Richard Beatty, que je ne sais pas c'est qui. C'est un film de prison avec des terroristes qui veulent capturer des jeunes femmes qui sont des espions de quelque chose. Mais il y a Stone Cold Steve Austin, fait que... C'est ça. C'est un film... Steven Seagal s'appelle Cross, Steve Austin s'appelle Manning, et puis il y a des méchants, il y a des guns, et puis...
Un film de prison avec des guns?
Oui, parce que c'est deux gardes, c'est deux, je sais pas, le special operatives, freelance, machin, qui sont supposés de transférer des prisonniers dans une prison. C'est pas un film d'évasion, mais c'est un film de prison, pareil. T'sais.
OK.
Puis Steven Seagal, il est gros. Puis c'est hot parce qu'à un moment donné, il met une armure. Puis il a l'air encore plus gros parce qu'il l'attache pas. Mais je pense qu'il l'attache pas parce qu'il est pas capable de l'attacher. Là, il a juste son armure qui balance.
Parce qu'il est trop gros. C'est un Ouroboros.
C'est ça. Je suis bien, moi.
Écoute, tous les films, là, mettons de 2010 à présentement, là, c'est tout pas mal la même affaire, comme blendé puis t'as resservi sous une flaveur différente, genre vanille et matcha ou vanille et chocolat ou vanille et citrouille, genre, mais tu sais, c'est toujours la vanille que tu vas goûter, fait que ça revient pas mal tout le temps au même, je te dirais. Fait que c'est ça. Ça se conclut un peu.
C'est le fun que tu te fasses subir ça, Milan.
Ben, écoute, on a même, moi puis Pascal, on a même influencé un de nos amis communs à commencer à regarder tous les films de Steven Seagal du début à la fin.
On lui souhaite bonne chance dans cet apprentissage.
Ben oui. Et toi, Florence, ta relation avec Steven Seagal?
Moi, j'ai arrêté au body double qui change de forme.
Ah, OK.
C'est un bon. Genre, mon cerveau a fondu, puis genre, OK, j'accepte tout ce que Steven Seagal va faire. Genre, peut-être loin de mes yeux pour le moment. Je suis pas j'ai pas commencé mon processus de stigalisation encore. Là, fait que...
Mais c'est important, hein, de se faire Casey Rybacky par Steven Seagal. qui est, je pense, un, ça et Forrest Taft, qui sont ces deux noms alias quand même.
Forrest Fat?
Taft, T-A-F-T. Forrest Taft. Mm. Dans le film On Deadly Ground, qui est un film écologique, il s'appelle Forêt.
Ouais. Puis Casey et Motherfucking Ryback, c'est le héros dans les deux sous le siège.
Sous le siège.
Mm-hmm.
Ouais, ouais. Ils sont les cuirassés en péril, un et deux.
C'est ça.
Mais bon, le deux, c'est pas dans un cuirassé, là, c'est sur un train, mais.
Ah. C'est Express en péril, là.
Donc. Ah, c'est Express en péril. Je pensais que c'était Express en péril 2.
Hein? Appelle ça sous le siège.
Sous le siège, effectivement. Effectivement.
Ils sont sous le siège, c'est ça qui
Et puis, ça finit pas mal, je vous dirais. Allez voir son IMDb. Commencez par le bas, allez vers le haut. Ça va en s'améliorant.
Puis, tu peux envoyer les films aux quelques personnes qui auraient envie de toutes les écouter, hein?
Écoute, j'ai presque... Je pense qu'il m'en manque un ou deux que j'ai vus. Ben, j'ai pas Pistol Whip, mais j'ai la version à Pascal en Blu-ray depuis à peu près un an et demi. Là. À chaque fois que je vais y redonner, il veut pas. Je sais pas pourquoi.
Garde ça chez vous.
Ouais, c'est ça. J'en le veux plus, esti. Mais c'est dommage parce qu'on s'entend, mettons, Under Siege, c'est quand même un bon film.
C'est un bon Die Hard, pour vrai. C'est comme. C'est le troisième meilleur Die Hard, je dirais.
Puis il y a Gary Daniels et Tommy Lee Jones.
Oh, j'irai pas jusque-là.
C'est le quatrième meilleur Die Hard.
Ça me va.
Moi, j'aime bien Sous le siège 1 et Glimmerman, qui c'est quand même bon.
Ah, Glimmerman, c'est moins 6,5, moins 7.
Ah, facile. Moi, j'étais à moins 7,5. Ah, J'ai beaucoup d'entertainment.
Et voilà. Quand ils sont à côté du cadavre de jeune femme et que là, Casey Ryback, le monstre, le Jabba de acteur, il dit « Est-ce que tu remarques quelque chose? » Puis l'autre fait « Elle a de vraiment jolis seins. » Puis là, il fait un peu trop joli. Puis là, il met des gants. Puis là, il sort un scalpel. Là, il ouvre le sein de la madame pour montrer à l'autre que c'est un faux sein. Puis là, il dit, tu vois, faut jamais se fier aux apparences. Mais tu sais, ta gueule! Puis dans ce film-là, à un moment donné, c'est un de mes bouts de film préférés. Là. Il se fait plugger pour faire un polygraphe, là, un test de mensonge.
Ah oui, c'est hâte, ça.
Puis là, la première question qu'il se fait demander, c'est quel est votre nom? Là, il dit une affaire comme John Dornor. C'est une affaire cool. Là. Je me rappelle pas c'est quoi son nom.
C'est Lieutenant Jack Cole.
T'sais, voilà, Lieutenant Jack Cole, puis personne qui s'appelle Jack Cole. En tout cas, deuxième question qui se fait poser, c'est « Avez-vous gravi l'Everest? » Puis là, il répond « Oui ». Puis là, ça montre qu'il ment pas. Puis là, après ça, en background, y a les deux polices parlent, puis ils font « Est-ce qu'on peut tromper le détecteur? » Puis là, l'autre a dit « Oui, mais il faudrait être en total contrôle de ses émotions. » Fait qu'à ce moment-là, dans le film, soit que Steven Seagal a le contrôle assez total de ses émotions pour tromper la machine, soit qu'il a gravi l'Everest pour vrai,
Tommy,
ou les deux.
C'est les deux.
C'est sûr. Sans dessin. Puis il y a un Wayans qui est encore capable. Là. C'est le seul qui n'était pas perdu. Là.
C'est quand même 96 Glimmerman. Fait que c'est qu'encore dans l'époque où ça allait au cinéma, puis il y avait encore...
On est sur pellicule. On le voit?
Oui.
On s'appelait ça de même.
Fait que moi, je pense que ça fait le tour de Steven Seagal. J'en ai et tout. Moi. Je suis tanné.
moi, Mila, je te dis, tu peux arrêter.
J'ai donné. Je les ai toutes vues au moins deux fois.
D'ailleurs, je vous ai montré ça tantôt. Hein, c'est Soccer Dog 1 et 2.
Oui.
Ouais.
Je l'ai fait venir. Tu sais, on était en temps de pandémie puis tout, puis j'ai mal cliqué sur la date de livraison que je voulais.
Ah non. Ben,
j'aurais aimé ça me le faire livrer dans deux mois, tu sais, que ça soit pas comme pendant qu'il y a juste les indispensables du travail, puis que là, il y a un gars qui m'a livré Soccer Dog 1 et 2 en temps de pandémie. Tu sais,
indispensable, Tommy. C'est indispensable.
Je me trouvais niaiseux. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit tantôt, mais il y a Billy Drago qui est dans le premier.
Oh!
Ben oui.
Ouais, Billy Drago. Peut-être qu'il va faire le méchant.
Tu penses?
Peut-être. Sinon, si vous vous demandez où il est rendu, John Lovitz, ça vous dit quelque chose?
Mm-hmm.
C'est un acteur, il était plus dans les années 90, là. On pourrait dire stéréotype de juif qui fait des blagues, là. Il était dans Paws P.I. C'est un film de chien dans lequel le chien doit aider son maître à résoudre une énigme pour pouvoir garder le manoir et le transformer en maison, en refuge pour les chiens, à place que le méchant milliardaire rachète le manoir et le détruise. Et il était... En fait, John Lovitz, dans ce film-là...
Tommy, juste question comme ça. Est-ce que c'est un film pour enfants?
Quelque part, peut-être. Je pense que pour la famille, on va dire pour la famille. Okay. Mais John Lovitz fait la voix du chien dans ce film-là. Et dans... comment que ça s'appelait déjà? Agent Toby Barks, dans lequel c'est un chien qui est un agent secret entraîné que tu peux y mettre un collier, puis là, on peut comprendre quand il parle, puis fait que là, tu peux lui donner des ordres, puis tout. Ben, John Lovitz fait la voix du chien. Fait qu'en 2019, John Lovitz a fait la voix d'un chien agent secret, et en 2017, il a fait la voix d'un chien détective. Fait que...
C'est pas le même personnage.
Non, c'est vraiment pas... C'est deux diégèses totalement différentes, là. C'est... Ça a rien les deux. Mais bon, je trouvais ça important de vous partager cette information-là.
C'est bon, ça.
C'est cool. Bon, oui, c'est très, très, très important. Très bon. Très, très bon. Les films de chiens. Je vous tiens au courant, là, Soccer Dog 1 puis 2. Là. Je me rappelle la discussion qu'on a eue, moi, puis Chinook. Tu sais, je suis en train d'écouter un film, puis il fait « Hey, t'as-tu vu ça? » Je fais « Ouais, ouais, je l'ai vu. » Il fait « Non, c'est pas celui-là. » Oh, liste. Fait que, là, je check, puis je fais « Ah, oh, fuck, il en a un 2. » Fait que là, je me ramasse avec deux hosties à écouter. Ah.
Sais-tu, t'es rendu à combien de films de chiens?
J'évalue 250.
Ah, merci. Ah, bah, man.
Ouais.
Depuis 2016, ça?
Ouais.
Ah, c'est pas... C'est 200 en 4 ans, c'est 50 par année. C'est pas super.
C'est ça, ça se fait. Puis pour la première fois aussi, je me suis attelé au... Parce que Call of the Wild, c'est un roman qui a été écrit en 1903 par un gars qui s'appelle Jack London. C'est un Anglais d'Angleterre qui voulait déménager au Canada et aller vivre le rêve là, du Klondike. Mm-hmm. Pis tout. Il est allé au Yukon, puis quand il écrit des affaires, ça pogne beaucoup, c'est très viscéral parce qu'il est allé vivre ça, les traîneaux à chiens et tout. Et à l'époque, en 1903, c'était presque un rapport documentaire, là, dans le sens un journal de voyage ou ces affaires-là. Les gens s'associaient beaucoup, tu sais, c'était viscéral, voilà, c'est le bon mot. Et en 1905, il a fait quelque chose qui s'appelle White Fang. Il a écrit White Fang. Et Call of the Wild, c'est l'histoire d'un chien. Ça suit surtout un chien, un gros berger allemand, un gros chien, qui, au fur de voyage et tout, se ramasse en Alaska et se ramasse comme chef de traîneau et finalement devient chum avec les loups. Puis là, il redevient un chien sauvage. Fait que c'est l'histoire d'un chien qui redevient sauvage. Et White Fang, c'est l'histoire d'un loup qui se marie avec une chienne, puis que là, il devient comme chum, puis là, il sort du sauvage. Fait que, tu sais, je trouvais ça, tu sais, White Fang, c'est le loup qui devient...
Un chien,
et Call of the Wild, c'est un chien qui devient un loup. Et tout est possible. Et je voulais noter le fait, là, j'ai pas toutes les dates, je vais y aller de mémoire comme ça, mais Call of the Wild, ils en ont fait un dernièrement avec Harrison Ford, qui est Infect, je l'ai vu dernièrement. C'est un film de chien dans lequel il n'y a aucun chien, mesdames, messieurs. Tous les chiens du film de chien sont en CGI.
Mm-hmm.
Et c'est affreux. C'est laid. Il y en a eu un en 2011. Il y en a eu un en 1997. Il y en a eu un en 90-91, Call of the Wild. Sinon, tu peux remonter avant. Il y avait genre 8 films inspiré de chacun de ces deux romans-là, qui racontent pas mal un peu la même affaire, soit un chien loup qui est comme entre les deux. Mm-hmm. Et voilà, la meilleure version que j'ai vue à date de ça, c'est celle de 1900, C'est Call of the Wild de 1971. Ça date, c'est le meilleur.
Ouais, mais inquiète-toi pas, Tommy, ils vont en sortir un autre dans 10-15 ans. Là.
Ben oui, c'est important. Cette fois, hey, des chiens en CGI, calice. Puis il se passe, à toutes les fois, tu sais, le dernier, celui de 2020, là, c'est. Tu sais, je trouve ça le fun de les écouter un en arrière de l'autre, ces affaires-là, parce que c'est toute la même histoire. C'est un livre de 206 pages, puis tu peux sortir 12 films différents de ça. Puis à chaque époque, tu vois un petit peu, je veux dire, l'interprétation du livre en 1970 est nécessairement différente, dépendamment des personnes et de l'époque, mais je trouve que c'est une très bonne manière de voir un peu le cinéma à cette époque-là ou de comprendre le monde à cette époque-là, de voir
une de regarder le Call of the Wild de cette époque-là.
Voilà, voilà, on comprend de ce qui se passait dans ce temps-là. Je trouve que... Puis tu sais, tout ça pour dire que celui de 2020, avec tout le CGI puis les rebondissements inutiles, à un moment donné, il y a une grosse avalanche, puis là, il sauve en traîneau à chien, puis le chien, il est en avant, puis il fait « Ah non, on va aller par là! » Fait que là, tu sais, il s'en va par là. Mais là, le gars qui, tu sais, en arrière, le mocheur, il fait « Mais non, on va pas par là! » Mais le chien, il sait, il va. Puis au final, ça change rien, tu sais. Il y a juste comme du danger parce que l'avalanche s'en vient, puis ça tombe. Mais, tu sais, ils crèveront pas. C'est juste de rajouter du stress, puis de crisser du CGI, tout croche. Puis en tout cas, checkez pas celui de 2020.
Ouais, moi, je me rappelle juste que comme Call of the Wild, celui de 2020, le trailer passait avant Star Wars 9, Rise of the Skywalker. Puis déjà là,
excellent.
Ça mettait les bases de Rise of the Skywalker. Fait que, tu sais, j'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. Et j'aurais dû
me fait que tu l'as vu, toi, là, celui de 2020?
J'ai vu juste le trailer, ça me suffisait.
Ah oui. Puis d'ailleurs, dans le trailer, on voit Harrison Ford à peu près d'un bout à l'autre. Et dans le film, Harrison Ford, il est là 8-9 minutes.
Ah, pour vrai?
Ouais, il joue le rôle. Dans le temps, je pense qu'il y avait eu Charles Bronson aussi qui l'avait fait. C'est le rôle du dernier propriétaire du chien, que j'ai oublié son nom. Hein. En tout cas, du chien de Call of the Wild, là, c'est son dernier propriétaire. Puis là, lui, il meurt de vieillesse à un moment donné, loin en Alaska. Fait que là, le chien, il n'a plus de propriétaire. Fait qu'il vient de terminer son retour à la vie sauvage.
Mais ça, je veux dire que même pendant le trailer, comme je me suis retournée vers pas mal tout le monde qui était à côté de moi dans la salle, puis on a tous eu la même face, la même pensée de « avec le chien de chien. réaction, fait que that's it. Ouais.
Et voilà, ben moi, j'ai plein d'autres affaires à parler, mais je pense qu'on a un show pour aujourd'hui. Je
pense que oui.
Oui, hein? Merci beaucoup, Milan.
Écoute, ça me Steven Seagal fait plaisir.
Hey, oui, Seagal et moi, fait plaisir. Hey, check la grosse face potelée. Là, le montage de Vic Berger.
Ah oui, c'est un excellent montage. C'est hot parce qu'il fait des démos encore d'arts martiaux. Où est-ce que le monde... comment dire, se laisse tomber par Steven Seagal?
Ben, c'est de la lutte. Là. C'est comme de la lutte Steve Austin là, qui fait un move. Fait que là, l'autre, il colle. Là, il vend le move. Là. C'est... Hey, non. Vic Berger, il est excellent.
Oui. Il fait de mes meilleures compilations à vie avec ceux de Jim Baker, évidemment. Je suis un grand fan.
Fait que, quand il croque la carotte, tu s'en vas vers quoi, le Milan, si t'as fini Seagull?
Écoute, j'ai pris un break cinématographique, mais je pense que Vedrotica a lancé une vague. Hein? Une vague de quoi? Je ne sais pas.
Verra. On s'en reparle dans le futur.
On s'en reparle.
Merci beaucoup, Bruno, aussi, d'être passé. Puis merci, Florence. Puis, merci, podcast.com, puis Martin Godette. Merci à vous, les auditeurs. Puis, je sais pas quoi dire. Ah ouais, on est disponible sur Spotify. Je trouve ça bizarre de dire à du monde qui écoute notre show où vous pouvez trouver le show, mais il est disponible sur Spotify. Il paraît que c'est important de le dire. Puis, c'est ça. On vous souhaite à toutes de la bonne bobine. Là, mon nom, c'est Tommy Godette. Tu finis?